c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Open FM, votre radio des mondes en Balzac avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec votre opticienne en Balzac Optique. Lunettes, lentilles, contrôle de la vue, devis gratuit, conseils personnalisés. Alors n'attendez plus, votre opticienne en Balzac Optique vous attend au 14 rue Joanet à Balzac, au cœur de votre ville, et s'occupe de toutes vos démarches.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Vous écoutez Radio Open FM, la radio des mondes en Balzac. Bienvenue chez vous.
Et bon début de soirée à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé, l'hebdo sur Radio Open FM. Vous nous écoutez sur le 97.9 chaque lundi à 17h. Pendant une heure, eh bien, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien, tout de suite, le sommaire.
On est vraiment bien sans
elle. I just haven't met you yet.
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission Chute, on écoute la télé aujourd'hui, pas moins de deux coups de cœur cinéma. Le premier consacré au film Médecin de nuit d'Elie Wajsman, qui sera donc dans quelques instants avec nous, accompagné de Vincent Macaigne, le héros du film. Nous aurons le plaisir de dérouler nos coups de cœur télé de cette semaine avec Camille Combal, qui sera pour la première fois notre invitée pour Camille et Images. Ça sera diffusé samedi sur TF1. Nous aurons le plaisir de recevoir également Philippe Basse à l'occasion de la diffusion du film Le Saut du Diable. On lui demandera évidemment des nouvelles aussi de profilage. Philippe Bas, donc tout à l'heure avec nous. Olivier Lacheneau, également président des Campings Paradis, viendra nous dire comment passer de belles vacances cet été. Et on lui fait confiance. Et puis deuxième coup de cœur ciné consacré au film 5e set qui sort également dans les salles mercredi avec Alex Lutz qui sera notre invité accompagné du réalisateur Quentin Reynaud. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui. Ensuite on écoute la télé. On commence comme d'habitude par les audios de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et c'est une semaine compliquée pour les audiences avec le beau temps. Eh bien, la télé a été plus ou moins désertée. On commence par lundi dernier. Et TF1 qui arrive en tête avec Lié pour la vie. Le téléfilm avec Laetitia Milot réunit 4 46 000 téléspectateurs et 20,1% de part de marché. Très bon démarrage pour la nouvelle émission d'M6, Appel à témoins. 2 569 000 téléspectateurs et 13,1% du public. Petit score pour la nouvelle série de France 2, Le Doute. Seulement 1 704 000 téléspectateurs pour un petit 8,3% de part de marché. On continue avec mardi. M6 fait un carton plein avec le foot. Le match amical France-Bulgarie a été suivi par 6 853 000 téléspectateurs et 30,8% de part de marché. Le voyageur sur France 3 résiste bien avec 4 270 000 téléspectateurs et 18,6% de part de marché. Puis jeudi, c'est Meurtre en Pays d'Oléron. La rediffusion du film avec Michel Simès a carrément battu Luther avec 3 561 000 téléspectateurs. Et Luther ne fait seulement que 2 744 000 téléspectateurs pour son final. Et voilà pour les audiences de la semaine dernière. On va tout de suite donc évoquer notre premier coup de cœur ciné cette semaine consacré à Médecin de nuit. C'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné cette semaine consacré au nouveau film d'Elie Wajsman qui est avec nous pour nous parler de ce film Médecin de nuit qui sort mercredi dans les salles. Bonjour Elie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et il est accompagné de Vincent Macaigne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Elie, on va planter un petit peu le décor et on va parler du personnage évidemment de Michael qui va vivre une nuit dont pas beaucoup de monde aimerait vivre évidemment. Ça va être la nuit des emmerdes, la nuit de la reconstruction, ça va être la nuit de plein de choses qui vont se dérouler durant cette nuit-là. Mais Elie, on va planter le décor ensemble déjà, l'histoire en quelques mots.
Bah écoutez, c'est le portrait d'un médecin de nuit qui lors d'une nuit va essayer de se sortir d'un trafic de médicaments dans lequel il a été conduit par un cousin pharmacien toxique. Et c'est cette nuit où il va dire non à ce cousin et il va renoncer à la nuit pour aller vers le jour. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui se sépare d'un cousin et d'un trafic. C'est un film noir.
D'une maîtresse aussi, par la même occasion.
D'une maîtresse aussi, absolument.
Il y a beaucoup de choses à remettre en place dans sa vie. Comment est née la genèse du projet?
Bah, elle est née de deux choses. Je voulais absolument faire le portrait d'un personnage très divisé, qui a plein de casseroles. Et je voulais faire le portrait d'un médecin de nuit. Et je trouvais ça très beau et romanesque de faire un portrait d'un médecin de nuit qui se perd dans la nuit. Voilà, c'est vraiment ça part de la figure du médecin de nuit que je voulais le faire le plus romanesque possible et que je voulais filmer et imaginer comme un détective privé dans sa voiture la nuit qui arpente les bas-fonds de la ville.
Alors, on imagine souvent que les médecins sont des gens parfaits, à qui il arrive rien de particulier, ou qu'ont des vies bien rangées. Et en fait, on se rend compte avec ce film que c'est des gens comme les autres, à qui peuvent arriver effectivement des amours, des emmerdes, et le reste avec. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir montré ça, que les médecins sont des gens comme tout le monde.
Absolument, vous avez raison, c'est pas du tout, c'est des gens comme tout le monde, ben, on le voit quand même assez bien dans les faits divers, quand même les médecins peuvent vite arriver dans les faits divers quand on lit la presse. Et d'autre part, les médecins nuit particulièrement sont des gens qui se mettent comme à l'abri du jour, qui se fondent dans l'ombre de la nuit. Et ça, je l'ai vérifié au jour le jour en étant avec des médecins et en voyant comment les médecins nuit peuvent des fois se casser de leur vie de famille et vouloir faire quelque chose de plus secret, quoi.
Ah, quasi majorité du film a été tourné de nuit pour le coup. On va en reparler d'un tournage de nuit et des difficultés que ça peut aussi représenter, puisque toute une partie du film a été tournée de nuit. Mais Vincent, on va parler évidemment de Michael. Alors déjà, en quelques mots, Vincent, comment tu le définirais, toi, Michael?
C'est un médecin de nuit, déjà. Non, c'est un personnage qui, je pense que, comme l'a voulu Ellie, qui est quelqu'un qui est bon, mais qui est un peu embourbé dans la nuit, en fait, et qui essaie d'aller vers le jour. Quand le jour arrive, on a l'impression d'avoir une sorte de vampire qui va être grillé par le jour, en fait. C'est un film noir et qui essaye de s'en sortir, et c'est une tragédie, en fait. C'est une tragédie grecque, voilà.
Oui, mais qui est plein d'espoir à la fois, puisque évidemment, hein, effectivement, il va vers le jour, donc c'est quand même un film
il ne fait
avec
que
beaucoup
essayer
d'espoir.
De... ouais, il fait que essayer de s'en tirer, quoi. En fait, tout le film, c'est un personnage qui essaye d'aller vers le jour, d'aller vers quelque chose qui est beau, vers l'amour, mais qui est retenu comme ça. Alors, il est retenu par la nuit, il est retenu par son cousin, il est retenu par Sofia, ses contradictions, voilà quoi.
Et il est vrai que le personnage de Pio Marmaille, oui, est pas mal, hein, dans le rôle du cousin.
Voilà, il y a un personnage de bad guy, il y a un méchant qui est subtil, qui n'est pas méchant avec des gros traits, mais on va dire que il a un opposant assez fort, faut pas trop dévoiler, mais qui est la figure de cousin est en tout cas à la hauteur, je crois, du personnage de Michael, dans le sens où c'est une sorte de double. Et amené Vincent a dit un truc très très beau, si je peux le répéter, il y a quelques semaines, c'est un double avec sa part la plus sombre, mais ils sont comme les deux faces d'une même pièce.
On a l'impression que le personnage du cousin, c'est un peu la petite voix qui te fait aller dans le sens contraire où il faut aller, oui. Pour le coup, hein, un peu quand il y a l'ange et le démon, des fois dans les films, on a l'impression vraiment que le personnage de Pio, c'est vraiment, voilà.
Et c'est vrai aussi que c'est l'histoire d'une séparation, enfin là c'est deux cousins, mais ça pourrait être deux frères ou de grands amis, mais c'est une histoire aussi d'une séparation.
Mais effectivement, c'est quelqu'un qui se sépare, quelqu'un qui apprend à dire non, donc ça fait que c'est un film noir, certes, film tendu tout le temps, et en même temps il y a un côté un peu mythologique aussi, comme une fable. C'est ce qu'on a voulu, Vincent et moi, pour le coup, vraiment faire que ça soit le plus précis possible, documenté, et que c'est une dimension un peu mythologique à la mesure de ce petit film.
Vincent, est-ce que c'est épuisant un tournage de nuit comme ça, quasi permanent?
Non, c'est parce qu'on
prend un rythme différent de se coucher le matin.
Non, non, c'est pas ça qui était épuisant. Ce qui est épuisant, c'est de tenir le film, le personnage, de trouver le rythme juste. Enfin, c'est le travail, quoi, mais c'est bien. Enfin, c'est pas épuisant, mais c'est bien.
Ouais. Et s'il y avait un peu d'épuisement, c'était très très bien pour le film, évidemment, pour que les acteurs ou Vincent, particulièrement, qui de tous les plans soient épuisés, c'est quand même très très bien aussi, parce que le personnage l'est, oui. Hein, tout simplement. Et d'autre part, mais en même temps, Vincent Macaigne est quelqu'un de très très dur à épuiser, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il était tellement volontaire et tellement dans le personnage tout le temps que quand on pouvait refaire une, il proposait des nouvelles prises, il disait on peut la refaire.
Même quand c'était bon.
Même quand c'était bon. Ou alors quand tout d'un coup il reste une doublure à faire ou un petit truc, il restait disant je peux rester là. Si vous avez encore besoin de moi, enfin, il était à fond dans le film, c'était impressionnant. Donc il était, non, lui il était pas fatigué.
On va écouter la bande-annonce. Médecin de nuit, ça sort mercredi au cinéma. Écoutez.
Vous avez fait beaucoup de prescriptions Subutex ces derniers mois?
Ben, je suis souvent appelé par des usagers.
Salut docteur.
Vous parlez des toxicomanes.
Docteur.
C'est qui papa?
Oui, des toxicomanes.
Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête.
Vous avez d'autres questions?
Mais tu travailles là ce soir?
Ouais, je suis désolé.
Mais Michael, j'ai un 19e et un 20e arrondissement.
Écoute, excuse-moi, mais j'aurais pas le temps là, faut que je passe voir mon cousin. Viens, on part ensemble.
Tu m'as dit tout ce que t'avais à me dire?
Si, hein, ça va? J'arrête, je veux tout arrêter, d'accord? Je veux arrêter avec ces ordonnances.
Allez, de retour pour notre spécial médecin de nuit. Le film sort mercredi dans les salles. Elie Wajsman et Vincent Macaigne sont nos invités. Si on devait évoquer un souvenir de tournage qui va rester au-delà ou dans 5 ans, quand on te réévoquera le film, Elie, tu diras « Ah oui, j'ai ce souvenir qui me revient en tête ». Il y en a un particulier ou pas ?
Le tournage en lui-même était un immense, ce sera un grand souvenir et j'y penserai toute ma vie, c'est sûr et certain, parce qu'il était très très intense, parce qu'il était de nuit, parce qu'il était court et puissant, donc voilà, ça c'est sûr que en général et en particulier, bah il y a une scène où on va dire on était très très, enfin j'étais très 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 à fleur de peau parce que je voulais absolument réussir et Vincent aussi, donc c'était à la fois beau et en même temps éprouvant comme une bonne scène doit être, qui est une scène où il se confronte à un des méchants dans des toilettes, vous verrez où c'est très tendu, où il y a tout le film de genre est convoqué puisque il y a une arme à feu, il y a et le personnage, c'est une sorte d'acmé du personnage joué par Vincent. Donc ça, ouais, c'est cette nuit-là de tournage, ça je m'en souviendrai. Dans ces chiottes puantes d'un rad de la banlieue parisienne, enfin du bord de Paris, on va dire. Ça je m'en souviendrai.
Pourquoi Vincent ? Qu'est-ce qui vous a attiré en Vincent ou là vous vous êtes dit j'ai trouvé mon Michael ? L'équipe du film, hein, que ce soit le scénariste, réalisateur.
Bah, en fait, je vais aller vite, mais il y a deux choses, c'est que avec Vincent, on est, en fait, on se connaît depuis assez longtemps, donc il y a une amitié qui est née qui a pris son envol pendant ce tournage, mais en fait, j'avais déjà choisi Vincent, en fait, étrangement, il y a assez longtemps. Et après, en voyant un film de Olivier Assayas, j'ai trouvé formidable, et je me suis dit qu'il pouvait faire un personnage amoureux, qui a une compagne, qui a des enfants, et un truc très droit. Voilà, et je pensais que c'était un grand acteur, que j'ai besoin de grands acteurs pour que mes scénarios ils tiennent le coup, et je pensais que c'était un acteur russe. Je me disais que Vincent était l'acteur russe français.
C'est pas mal dit. Elie qui a co-signé le scénario, quand il t'a présenté Vincent, tu t'es dit quoi ?
Bah non, mais c'est un scénario qui est hyper excitant, qu'on me propose un film comme ça, qui me déplace aussi par rapport à ce que j'ai pu faire.
Oui.
Enfin, je sais pas comment le dire, auparavant. Et puis tous les paris qu'il y avait dans ce scénario, c'est-à-dire aussi de ce film qui se passe en une nuit, qui est très resserré et en même temps qui doit garder les grands sentiments, les grands gestes du film, quoi, en fait, et de garder ce rythme-là.
C'est un film qui est court mais intense, hein, vous verrez. Hein.
Ouais, c'est très très intense.
Tambours d'un temps.
Ouais, c'est très. Il y a beaucoup de suspense qui est quand même assez rare en fait dans le cinéma français et du coup il y a quelque chose comme ça de très lyrique et épique et tendu et c'est un pari énorme pour un acteur parce que évidemment le rôle de Michael j'avais une sorte de pression de bien comprendre le rythme du film parce qu'en fait ouais. Finalement on suit beaucoup Michael quand même dans le film donc,
tu t'es pas dit à un moment donné quand même, t'as pas dit à Elie mais t'es sûr quand même tout ça pour ce personnage là
tout ça tu veux dire que
bah, tout ce qui lui arrive
on a beaucoup
nuit.
Discuté ouais.
Oui. On s'est dit plein de fois tout ça, moi-même je me disais mais qu'est-ce qu'il y a tout ça pour ce personnage après amener faire un film il faut qu'il y ait tout ça et pour faire un film haletant il faut qu'il y ait tout ça.
Pour l'instant, ce qui nous intéressait, Médecin de nuit, ça c'est mercredi dans les salles. C'est le film, évidemment, ne pas rater. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Merci Vincent, merci Elie.
Merci beaucoup.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
Laissez-vous emporter par la musique sur Radio Open FM, votre radio.
Santé à toi Paris, à toi aussi ma vie d'avant. Toi Paris qui m'a tout pris. Mon sommeil, tout mon argent. Chanter pour toi Paris, pour oublier ma vie d'avant. Entre les rêves et la famille, Paris m'a dit choisis ton camp. T'es pas sérieuse, vas-y t'es pas sérieuse, non. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dirai bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, bien trop souvent. Paris t'es pas le balmond du vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, bien trop souvent. Paris t'es pas le balmond du vivant. On va pas se mentir, Paris, elle fait la gueule ma vie d'avant. Même à minuit, Paris, tu brilles. On voit que toi au premier rang. On va s'aimer Paris. Dans tes rues, je te ferai des enfants. Ils auront tes yeux, je parie.
mais le sourire ma vie d'avant. T'es pas sérieuse, vas-y t'es pas sérieuse, non. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dirai bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris tes balles, balles m'ont rendu vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris tes balles, balles m'ont rendu vivant. Derrière moi j'ai laissé des sourires. Juste avant de partir Paris, si tu me laisses sous ta pluie, ma vie d'avant peut revenir. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris tes balles, balles m'ont rendu vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris tes balles, balles m'ont rendu vivant.
Chaque jour, faites le choix de la radio de votre région. Radio Open FM, votre radio.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, petit focus à l'approche des vacances avec les campings paradis. 44 campings dans toute la France, désormais aux couleurs de votre série préférée. Et c'est une envolée incroyable puisque ça a été carrément multiplié par 4 le nombre de campings paradis en France. Et son directeur justement est avec nous, Olivier Lacheneau. Bonjour Olivier.
Bonjour.
C'est un petit rendez-vous annuel maintenant qu'on se donne, Olivier, pour faire le point justement sur cette nouvelle chaîne de camping paradis qui a l'air de ravir le public et les fans de la série qui sont en train de se presser en nombre pour réserver leurs vacances. Hein.
Ben oui, merci beaucoup de me donner à nouveau la parole. Ça fait plaisir de partager ça avec vos auditeurs. Effectivement, donc on est passé de 12 à 44 campings et là, après une saison difficile, évidemment, hein, cet hiver, les gens ont réservé leurs vacances d'été très timidement. Et là, depuis 3 semaines, 1 mois maintenant, on a une très forte accélération, une très forte demande sur les campings paradis qui correspondent bien, je pense, à l'envie qu'ont les gens aujourd'hui que d'aller prendre du plaisir et s'amuser dans des campings cet été, de façon à oublier un petit peu cette période difficile qu'on vient de passer.
Alors justement, quels sont les critères importants que vous recherchez aujourd'hui, vous, dans des campings pour les faire passer sous l'égide de camping paradis? Parce que on imagine bien qu'il faut vraiment qu'on ait des propriétaires qui soient vraiment très proches de leurs campeurs, des campings comme un peu les Tom Delorme dans la série.
Oui, exactement. Donc notre recherche première, c'est de trouver des... Alors c'est souvent des couples, hein, parce que le camping, c'est avant tout des campings familiaux qu'on recherche. On va trouver des couples de gérants très souvent, qui effectivement auront cette envie d'être proche de leurs clients, qui font beaucoup de choses vraiment en termes de partage, de convivialité, et qui ont envie d'accompagner leurs clients dans leurs vacances, un peu à l'image de Tom. Donc, c'est vraiment notre recherche, cette convivialité dans des établissements de taille humaine. C'est 200 emplacements en moyenne, donc ça fait des campings dans lesquels on est en capacité de connaître les prénoms des gens et des enfants et de vivre des grands moments et des bons moments tous ensemble en vacances.
Alors en attendant que la série revienne, on va découvrir la nouvelle mascotte de la série qui a été donc introduite dans les épisodes qui ont été tournés en août dernier et qu'on va bientôt voir sur TF1, c'est Piki. Et donc Piki, ça y est rendu dans les campings paradis, va faire le bonheur des tout-petits cet été, et des grands aussi d'ailleurs.
Ah oui, non mais Piki, c'est un grand succès. Hein. Il est en place là maintenant dans l'ensemble des campings paradis depuis quelques semaines, depuis l'ouverture. Et c'est un grand succès auprès des enfants et auprès des grands. C'est une grande rigolade. Piki, c'est un animal amusant, rigolo, qui est là dans tous les moments forts, sur la fiesta boum boum, lors des mini-discos le soir, et sur l'ensemble des moments forts de la journée, il est là. Et si vous venez sur nos Facebook et nos Instagram, vous pourrez voir que Piki fait plein de choses. J'ai même vu Piki faire du char à voile, faire du skateboard. Enfin voilà, Piki est un sportif, c'est un sportif rigolo.
Il mouille le maillot.
En tout cas... Et voilà, et tous les enfants en sont tombés amoureux tout de suite.
Bon, alors il y a une chose aussi, moi, qui est assez incroyable, quand vous appelez un camping paradis, c'est Laurent Ronac qui vous répond. Alors ça, c'est incroyable.
Oui, c'est le petit clin d'œil. Effectivement, Laurent s'est prêté au jeu, vous savez qu'il est notre ambassadeur, vous pouvez le voir en ce moment à la télévision et dans nos spots de publicité. Et Laurent s'est prêté au jeu, effectivement, en enregistrant le message d'accueil de l'ensemble des 44 campings paradis. Et donc, c'est lui-même qui, entre guillemets, vous répond, en tout cas par répondeur interposé, pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous accueillir avant que nos propriétaires vous prennent en ligne.
Alors ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Alors aussi, la nouveauté cette année, c'est la tournée Paradis des Stars, avec de nombreuses stars qui vont se presser dans les campings paradis toutes les semaines. Parmi elles, jugez plutôt, il y aura le chanteur Gage, Pablo Villafranca, qui a fait 10 commandements. Il y aura également la gagnante de la Starac 5, Magali Vahe. On va pouvoir y retrouver Olympe de The Voice, Brice, Loïc de Koh-Lanta, Sloan. Il y aura des années 80, de l'aventurier, enfin, il y aura de tout. Pour tous. Et ça, c'est chouette aussi. Un très beau casting sur cette tournée.
Ça, c'est très chouette. C'est vraiment la petite touche d'émerveillement qu'on veut apporter en plus à nos vacanciers. C'est-à-dire chaque semaine de juillet et août, en tout cas des vacances scolaires. Donc chaque semaine à compter du 12 juillet jusqu'au 27 août, il y aura dans tous les campings paradis une star qui viendra à la rencontre des clients, qui viendra certes chanter ou faire des jeux, mais qui viendra aussi directement au contact de nos clients, donc faire quelques selfies, signer des autographes et faire un vrai temps de présence, un vrai moment de partage tous ensemble avec une star. Et ça, c'est toutes les semaines dans tous les campings paradis. Donc, si on réserve au moins une semaine dans un camping paradis sur cette période, eh bien, on verra une star. Et ça, c'est vraiment un des grands plus de camping paradis cet été.
Et alors, évidemment, pour retrouver le programme de cette tournée Paradis des Stars et réserver votre semaine en fonction de votre artiste préféré, rendez-vous sur le site descampingsparadis.com. Comme ça, vous aurez tout le programme, bien évidemment.
Exactement, c'est 24 stars en tout. C'est 320 dates partout en France. Et ça, ça a été un grand travail pour nous. Et on est très heureux de présenter ça à nos clients.
Alors aujourd'hui, les campings paradis, on en retrouve voilà à partir de Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque. Mais on remonte. Évidemment, les Charentes, les Landes, la Gironde. Désormais, à Biscarrosse, on peut en retrouver un. Vous allez en avoir aussi en Dordogne. Évidemment, vous en avez en Charente, en Vendée, en Loire-Atlantique. Ça s'est vraiment déployé tout le long de la côte, mais aussi dans les terres. Donc pour les amoureux aussi des vacances plus dans les terres et un peu plus reculées. Et vous trouverez aussi votre bonheur avec les campings paradis du coup.
Eh ben oui, l'idée c'est d'offrir une solution camping paradis et la capacité à vivre une expérience camping paradis partout où on souhaite partir en vacances cet été. Il y en aura encore un petit peu plus l'an prochain pour couvrir tout à fait l'ensemble des besoins des Français et des francophones, puisque nous avons beaucoup de clientèles belges aussi ou suisses qui viennent nous rejoindre dans cette belle aventure. Et du coup, effectivement, un peu partout en France, la capacité à retrouver cette expérience camping paradis où qu'on veut y aller.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Rendez-vous sur camping-paradis.com. Vous saurez tout, évidemment, sur vos campings préférés pour trouver le camping de vos rêves dans l'endroit de vos rêves. Et puis, la tournée Paradis des Stars, toutes les activités, tout y est parfaitement détaillé sur le site et puis également sur le Facebook officiel Les Campings Paradis. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous.
Un grand merci à vous.
Et puis, je vous dis à très bientôt.
À bientôt, au plaisir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré au téléfilm Le Saut du Diable jeudi sur TF1 avec à l'affiche Myra Schmidt, Armel Deutsch et Philippe Basque est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Eh bien, l'avantage c'est que après l'arrêt de profilage, eh bien tu viens vite nous proposer une soirée de grand spectacle jeudi soir. Vraiment, moi qui ai pu voir le film en avant-première sur Salto, le film est incroyable, les prises de vue hallucinantes et je crois que pour incarner Paul Villard, la moindre chose qu'on peut dire c'est que tu as vraiment donné ton corps pour le coup là.
Oui, bah, j'ai eu de la chance, j'ai pu bien me préparer avec la brigade d'intervention notamment, je les salue au passage, c'est l'ABI, c'est un peu comme l'ABRI ou le RED si vous préférez. Et j'ai pu bien me préparer en amont parce que c'est un projet que j'ai initié, j'avais envie de faire un rôle comme ça. Et donc j'ai pu m'entraîner avec les guides de haute montagne notamment sur place, on a pu aussi faire des installations particulières, se préparer, aller dans le canyon, tout ça, ce que vous verrez dans le film ce soir. Et donc, j'ai pu bien me préparer, donc j'en garde un petit peu de mérite, mais j'ai eu la chance de me préparer en amont, donc c'était plus facile.
C'est ce que j'avais deviné, que tu étais très très investi pour le coup dans ce film. Alors tu y incarnes un ancien officier des forces spéciales qui est séparé de son épouse et qui a sa fille de 17 ans avec laquelle il rêve de partir en randonnée pour leur anniversaire commun. Et puis les choses ne se passent pas comme prévu puisqu'ils vont être pris en chasse par des passeurs et qui vont tout faire pour vouloir les éliminer. Et là franchement commence une course contre la montre absolument folle. Il y a des prises de vue, je le disais, qui sont absolument vraiment magnifique, mais vraiment la première chose que j'ai envie de te demander, Philippe, tu t'es fait doubler pour certaines scènes ou est-ce que tu as vraiment tout fait toi-même?
Non, j'ai tout fait, d'ailleurs l'actrice Maïra Schmitt aussi. Là j'allais pas avec ce projet-là, j'allais pas laisser le plaisir de se jeter dans le vide à quelqu'un d'autre. Donc on a eu de la chance d'avoir un super coordinateur de cascade, Gilles Conseil, les guides sur place qui aussi nous ont assuré toutes les installations. Et donc c'était quand même assez inattendu, mais c'était des cascades qui étaient réalisables pour moi. Donc j'ai pu tout faire, fort heureusement, j'ai pu tout faire et c'était bien agréable.
Même celle du début où t'es dans le vide. Alors là, celle-là, elle est à couper le souffle. Hein.
Bah surtout celle du début. En fait, la difficulté dans celle du début, c'était juste de pouvoir tenir debout sur un endroit où il y a que quelques centimètres. En fait, il y a 30 centimètres, 20 centimètres pour chaque pied. Parce que c'est à 97 mètres de hauteur. C'est un monolithe qui est un endroit très très beau sur place, là, à côté d'Auxois. Et c'était un endroit magnifique et on voulait utiliser la perspective qu'on avait de ce rocher, ce bloc qui sort de nulle part comme ça, pour pouvoir montrer l'immensité du décor et la résonance avec la solitude que le personnage pouvait ressentir au début. Donc c'était une sorte d'allégorie qu'on a voulu montrer en profitant pour essayer d'en mettre un peu plein la vue aux gens qui puissent voir ce petit film avec que ça donne un grand bol d'air. On en a tous besoin hein, en ce moment.
Écoute, franchement, tu dis petit film, moi je dirais grand spectacle qui vous attend jeudi sur TF1 avec Maïra. Vous êtes absolument incroyable. Il y a vraiment des scènes assez hallucinantes d'une de poursuite, mais aussi vous dévalez des canyons et tout. Enfin, vous avez dû à la fois vous amuser, à la fois un film de télévision. On sait que c'est pas du tout le même temps de tournage qu'un film pour le cinéma. C'est deux fois moins. Donc, oui. En 20 jours, vous avez dû ressortir, mais totalement épuisés tous les deux.
Alors, on a eu beaucoup de chance, on a eu un peu plus de 20 jours, il faut le reconnaître, c'est grâce à TF1 qui a eu l'audace, qui a pris le risque de me donner le feu vert pour ce téléfilm. Donc on a eu un peu plus de 20 jours, on en a eu 24 ou 25. On a eu une petite coupure malheureusement durant le tournage à cause du Covid. On a été plus ou moins tous touchés, un tiers, moi-même. Mais on s'en est bien sorti, on s'est soigné. Ça a été, après cette coupure de 10 jours, on a pu continuer. Et la difficulté qu'on a eue en début de tournage, c'est vrai que c'était la météo était correcte, mais l'eau était très froide. On était en une eau à 7 degrés et on a pu faire des sas et s'organiser pour pouvoir y rester qu'une heure et demie, 1h45 maximum, deux fois par jour, et faire toutes les séquences, toutes les scènes qui étaient dans ce canyon durant 3 jours. Et ça a été un truc assez... On avait tous beaucoup d'humilité par rapport à ça parce qu'on se demandait si on arriverait à tenir. Et Maïra, je dois bien reconnaître que Maïra était extrêmement courageuse parce qu'il n'y a pas eu de... Elle a été dans l'eau, elle a sauté comme moi. Ça a été un grand moment et pour l'équipe technique aussi parce que c'est des gens qui ont pris beaucoup de plaisir à s'investir complètement dans ce décor qui était un peu extrême. Et donc, il y a aussi beaucoup de plaisir pour un technicien, on parle d'un acteur, de travailler dans ces conditions-là parce que c'est des choses qui sont inhabituelles. Donc, on a eu une équipe formidable, formidable.
Ouais, je crois qu'on peut souligner vraiment, voilà, votre duo, et puis en même temps tous les autres comédiens. Hein, vous verrez Laurent Morel pour les fans de Demain nous appartient. Il jouait Michael Corcas et on le voit aussi dans ce film, un petit peu moins méchant hein, que dans l'autre, mais bon, hein, pas très droit quand même non plus. Et puis je voulais souligner quand même que Maïra en ce moment, Maïra Schmitt est allée au cinéma dans le film Slalom de Charlène Favier, que vous pouvez aller voir. Je vous invite à aller découvrir. Ouvrir ce très beau film aussi. Et puis, exactement. Et Noé Bita. Et puis, bien sûr aussi, hein, toujours dans Léo Mattei, bien sûr aussi. Quel souvenir principal tu vas garder de ce tournage et de cette aventure dans laquelle tu t'es tellement investi, Philippe?
Mais c'est un souvenir d'ensemble, la préparation, je dirais que je ferai une compilation de tous ces moments que j'ai eus sur ce film, la préparation avec la brigade d'intervention à Paris, qui m'a permis de me familiariser avec la hauteur, la descente en rappel, les progressions avec des armes pour rendre ce personnage vraiment crédible, le travail que j'ai fait avec les guides, l'osmose que nous avons eue avec l'équipe. Il faut savoir que dans la deuxième partie du téléfilm que vous verrez ce soir, la deuxième partie débute avec un plan séquence de 6 minutes 15, qui est très très rare pour des fictions en général et encore plus pour une fiction de télévision. Alors c'est un plan séquence qui est un peu triché avec quelques effets spéciaux de façon à pouvoir faire des liaisons, mais c'est un plan séquence qui reste gravé dans le sens où c'est vraiment une performance technique de l'équipe, une performance aussi c'est un vrai challenge et un vrai pari et qu'on a réussi à tenir, on a réussi à aller jusqu'au bout.
Philippe, on peut pas se quitter sans évoquer Profilage. Évidemment, la série se termine. Est-ce que c'est vraiment un clap de fin ou est-ce qu'on peut espérer voir une vraie fin avec un épisode final comme bien ça va être le cas par exemple pour Section de Recherche ou pour Alice Nevers? Est-ce qu'on va avoir la chance de vous revoir un jour?
Oui, juste avant de terminer, je suis obligé de vraiment, j'y tiens beaucoup, c'est vraiment le cœur qui parle. Je voudrais remercier la production CPB Films et Rose qui ont fait un travail incroyable, et ainsi que TF1, parce que sans eux, sans leur feu vert, on n'aurait pas pu aller dans cette belle vallée de la Maurienne, on n'aurait pas pu tourner comme ça dans des conditions formidables, alors que bon, il y avait la moitié de la France en confinement, puis après toute la France, etc. Donc ça, c'était vraiment, voilà, je les remercie encore. Pour revenir à Profilage, écoutez. Non, c'est un clap de fin. Il y aura pas de suite. Ça a été prévu et il y a eu une sorte d'inertie puisqu'il y a eu un problème avec l'auteur qui a eu un problème de santé, donc on n'a pas pu écrire la suite tout de suite. Et le temps que les choses se préparent, qu'on trouve un autre auteur, il y a quelque chose qui prenait plus et je pense que certaines personnes ont pris la décision d'arrêter. Mais j'ai pas de regrets ni de frustration dans ce sens où j'ai eu la chance de faire 8 saisons dans cette série,
oui.
Qui a eu déjà 3 personnages principaux féminins. On a eu la chance d'avoir Shine qui vienne pour cette saison 10. Et je pense que ce serait ingrat d'avoir un problème avec l'arrêt de cette série, puisque ça a été formidable. On a fait du mieux qu'on pouvait. Les choses ont fait que ça s'arrêtait. Le public a quand même pu voir une dernière saison, une 10e, avec beaucoup de qualité. On a essayé de faire vraiment du mieux qu'on pouvait. Tamara Shine a été extra, elle a repris le flambeau parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui puisse reprendre aussi bien ce qu'avaient fait ces deux actrices incroyables, Odile et Juliette.
Ouais.
Donc voilà, j'ai pris les choses avec philosophie. Et puis quand les choses doivent se faire, elles se font. Ça s'est arrêté. Bon, mais il y aura pas d'ultime épisode. On a terminé la saison 10 sur un commissariat qui brûlait. Il y a eu le décès de Jean-Michel Martial.
Ouais.
Et bon, les choses étaient voilà, malheureusement.
La boucle est bouclée.
Ça s'est terminé. Oui, on peut dire ça.
Bon, merci Philippe, en tout cas d'avoir été avec nous. On va te voir dans d'autres choses ou pas? Est-ce qu'il y a t'as déjà des choses qui sont tournées ou des projets pour le coup de tournage pour les quelques mois à venir?
Je vous cache pas que le projet, ce sera si jamais le public est au rendez-vous ce soir. Nous, on aimerait beaucoup retrouver ce personnage de Paul Villard dans d'autres aventures. Donc, si le public est au rendez-vous, c'est des choses sur lesquelles on se penche déjà et on espère. Donc, si ça fonctionne, si vous êtes là, vous appréciez le film, eh ben on en fera d'autres. Voilà.
Eh bien, rendez-vous jeudi à 21h05 sur TF1. Merci beaucoup, Philippe.
Génial.
Et à très bientôt.
Merci à toi aussi.
Et
au revoir.
Et on termine tout de suite avec la bande-annonce.
Merci beaucoup. De rien. Je peux faire quelque chose pour vous?
Oh là là, surtout pas. Bon, bah c'est réglé.
Merci, heureusement que t'étais là. Tu sais qu'on aurait besoin de gens comme toi pour bosser avec nous.
Eh, mais moi je suis guide, je suis pas sauveteur.
Ah. Alors, c'est le grand jour?
Ouais.
Tu vas voir, ça va bien se passer.
Merci.
Paul, t'as mon numéro?
Le 17, c'est ça?
Voilà, et alors du coup, elle a un pote demain soir, Théo, qui fait une soirée chez lui, et elle aimerait bien y aller pour fêter ses résultats.
En fait, tu me ramènes juste samedi soir au lieu de dimanche, quoi.
C'est-à-dire que j'avais prévu qu'on fête nos anniversaires au refuge et je t'aurais ramené dimanche matin.
Allez, coup de cœur télé consacré à Camille et Images, ça sera donc samedi soir sur TF1. Il y aura également Marble Mania, ça sera le vendredi suivant. Et Camille Combal, elle est pour la première fois dans Chute, on écoute la télé, quelle fierté. Bonjour mon Camille.
Merci de m'accueillir, c'est moi qui suis trop content d'être là.
Ah bah écoute, moi je suis super fier de t'avoir, surtout en plus pour une toute nouvelle émission dont tu vas déjà nous décrire le concept. Alors c'est quoi Camille et Images? Parce que je crois que tu nous as concocté les plus belles images du web, de la télévision, de tout ce que tu as pu voir pendant le confinement finalement.
Ouais, donc pendant le confinement, même avant, tout ce qu'on s'envoyait avec nos potes qui nous faisaient marrer, c'est un grand zapping du confinement avec plein d'images que je vais montrer à des invités qui sont en plateau, qui sont trop cool. Tu viendras à la prochaine, Alain, tu feras partie des invités.
Ah, pari tenu.
Et puis on va montrer bien sûr à tous ceux qui auront la gentillesse de nous regarder samedi soir. Puis après, voilà, on s'amuse aussi en plateau, bien sûr, il y a plein de trucs qui se passent, un peu de Camille, mais surtout des images.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, justement, de faire cette émission? À quel moment t'as eu ce déclic? Tu t'es dit, j'ai regardé tout ça, maintenant, quoi en faire? Ça s'est passé comment?
Tu sais, moi, l'important, j'ai toujours eu l'envie d'avoir envie. Ça, c'est le premier point essentiel pour moi. J'ai toujours eu ça. Et puis après, surtout, ouais, on avait plein d'images. On s'est dit, ce serait marrant. Et après, en vrai, c'est une volonté de TF1 de faire une émission d'images. Et donc, nous, on s'est dit, ouais, ok, on est ravis de le faire. C'est parti. On l'a fait à notre façon. Moi, ça fait longtemps que je traite les images, bien sûr. Donc, on a retrouvé un petit peu cette méthode-là de comment on allait interpréter les images, les vendre, les tordre, s'amuser avec, et puis voilà, rigoler en plateau.
Et il y aura de nombreux invités en plus. Alors ça, c'est vraiment pour nous faire patienter avant de retrouver une nouvelle saison de Danse avec les Stars et de Mask Singer. Il y aura également Marble Mania aux côtés de Johan Ryu. Ça sera le vendredi suivant, hein, le vendredi 25 juin. Donc on va te retrouver deux semaines de suite, du coup.
Ouais, disons, et ma famille commençait à avoir peur que je fasse plus de télé. Ils pensaient que je m'étais fait virer de TF1. Mais d'un coup, je reviens. Et moi, c'est pour rassurer mon oncle Jackie, qui était persuadé que j'étais licencié. Mais il va pouvoir être rassuré, il va me voir deux fois. Voilà, donc je suis content, ouais, c'est super. Alors c'est un truc très différent, voilà, Camille Image, on l'a dit, mais l'émission de Bee, voilà, c'est avec Johan, c'est un grand délire et surtout c'est un programme qui, on l'espère, plaira aux enfants. C'est pour eux qu'on l'a pensé, qu'on l'a imaginé, qu'on l'a fait, surtout c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on pouvait regarder quand on était enfant, des grandes soirées de jeux comme les dominos et tout. Là, c'est pour s'amuser autour des Bee et c'est assez captivant, quoi.
Alors toi qui aimes bien te déguiser, est-ce qu'il va y avoir un peu de déguisement dans ces deux émissions? Est-ce qu'on va te voir habillé un peu ou avec des perruques? Enfin voilà, est-ce que tu vas nous vendre du rêve encore?
Oh, il y a quelques petits sketchs. Alors pas dans les Bee, mais en tout cas dans Camille Image, il y a quelques petites séquences. Ouais, bien sûr. Et puis on est en train de préparer d'autres émissions où je te rassure, on va remettre de la perruque.
Ah, j'espère bien, parce que moi je suis nostalgique. Dis, en pense quoi ton frère quand même? Je suis très très nostalgique, hein, je te le dis tout de suite.
Bah écoute, on refera dans cet esprit-là, compte sur moi.
Bon, je sais que c'est une émission qui t'a pris énormément de temps, mais alors moi qui m'a fait mourir de rire pendant les fêtes, c'était La Grande Incruste. Est-ce que ça aura peut-être une chance d'en voir un deuxième numéro?
Ouais, on a commencé à tourner la deuxième.
Ah, génial.
Après, la date de diffusion, on ne sait pas, parce que tu sais, comme c'est une incruste, on doit aller sur plein d'autres plateaux télé. Faut que les animateurs puissent nous accueillir, mais aussi, voilà, c'est des choses qui sont pas très évidentes quand le contexte sanitaire est compliqué. Là, il a l'air de s'alléger, on espère tous, on croise les doigts, bien sûr. Si ça reste comme ça, il y aura pas de souci pour que ça arrive assez vite. Et puis, si, comme sur la première, malheureusement, le contexte sanitaire se referme un petit peu, là, on sera obligé de décaler. Mais le but, ouais, c'est qu'on ait plein de séquences où on s'incruste sur les plateaux des autres.
Pour terminer sur Camille et Image, justement aussi, Camille, est-ce que c'est une émission qui est vouée pour l'instant à avoir un seul numéro ou est-ce que là aussi, tu espères pouvoir peut-être proposer plusieurs numéros ou un rendez-vous annuel avec Camille et Image?
Bah là, on en a fait deux. C'est vraiment un test comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est surtout TF1 qui avait envie de faire une émission d'image comme ça. Nous, on leur a proposé ça. C'est le plus important. Moi, tout ce que je fais, c'est pour que ça plaise aux téléspectateurs et aux gens qui me suivent, et vraiment j'espère, je croise les doigts pour avoir travaillé dur pour essayer que ça leur plaise. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, puis après il faut aussi que ça plaise à TF1, et voilà, et après on verra s'ils souhaitent en revoir. L'important déjà, c'est que les gens soient contents de ce qu'on a fait sur ces deux-là.
Bon, on a eu une pause sur Danse avec les Stars, je suppose que la prochaine saison est en préparation, vous allez peut-être pouvoir enfin redémarrer, on espère en tout cas tous.
Ouais, ben moi je suis, depuis que ça s'est arrêté, j'ai eu la chance de pouvoir partir me confiner à Cuba pour améliorer un peu mes pas. Donc moi, voilà, ça fait un an et demi maintenant que je suis à Cuba. Et voilà, franchement, Anthony Colette et Maxime de Remes, ils ont vraiment du souci à se faire. Parce que moi, maintenant, mon avenir, il est chez les danseurs pros, quoi. Il est plus à l'animation. Donc je pense que je vais mettre à l'animation Johan Ryu. Et moi, je vais aller sur le parquet à la place d'Anthony Colette.
Génial, tu vas danser avec Karine Ferry, du coup?
Je vais danser sans doute avec Karine, ouais, j'espère.
Bon.
Donc voilà, moi, mon avenir, c'est la danse de toute façon.
Bon, bah écoute, comme ça, le pari est pris. Moi, j'aimerais bien t'y voir en candidat un peu aussi, quand même, hein. Je pense qu'on va rire.
Ouais, je suis pas sûr que j'y arriverai, je suis pas sûr.
Bon, Camille Image, en tout cas, le rendez-vous, c'est donc samedi soir sur TF1, 21h05. On retrouvera également, donc, Marble Mania. Ça sera le vendredi 25 juin à 21h05. Et on te fait plein de bisous, mon Camille. Et puis, on espère vite te retrouver, en tout cas, sur nos antennes.
Bah, c'est très cool. Merci, à très vite. Merci.
À bientôt, Camille.
Salut.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film 5e set de Quentin Reynaud et qui est justement notre invité aujourd'hui. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et puis Quentin n'est pas venu tout seul puisqu'il est venu avec Alex Lutz qui est avec
nous
aussi. Bonjour Alex, merci d'être avec nous. Un film dans l'univers du tennis, Quentin. Il y avait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça, un film sur l'univers du tennis. On a vu beaucoup de films sur l'univers du football, les footballeuses notamment. Mais le tennis, ouais, c'est chouette de voir, et surtout sur les traits d'un tennisman, de voir ce qu'il ressent, de voir comment il vit les choses. Et moi, j'ai trouvé bien d'aller dans cet angle-là.
Eh bien, merci. Oui, c'est assez rare, les films sur le sport en général en France et sur le tennis en particulier. Oui, il y a eu des films avec Toile de Fond, comme Toile de Fond, ayant pour Toile de Fond, pardon, le tennis... Match Point de Woody Allen, ou Terre battue, ou The Battle of Sexes récemment, ou Borg McEnroe. Et c'est vrai que moi, je voulais vraiment me concentrer sur la psychologie d'un joueur de tennis et sur ses difficultés mentales Parce qu'il faut savoir que le tennis, après les sports de combat, c'est considéré comme le sport le plus violent. Il y a une vraie violence qui s'exprime dans ce sport, et c'était ça que je voulais montrer.
Alors, c'est l'histoire de Thomas qui a raté sa demi-finale à Roland-Garros et qui tente un retour bien des années plus tard pour essayer de revenir au top, pour essayer de rattraper ce qu'il a raté, en quelque sorte. On peut l'expliquer comme ça ?
Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Sauf que dans le détail, il tente pas vraiment un retour. C'est qu'en fait, il a toujours essayé. Il n'est pas vraiment en retour.
Ouais, mais là, il est plus motivé que jamais. On le sent vraiment.
Oui, parce que il y a ce personnage en face de lui. Bon, Thomas qui a 37 ans, qui a 17 ans, donc était le grand espoir du tennis français et qui s'est un peu planté juste sur un match et qui l'a fait vaciller l'ensemble de sa carrière. Et il arrive aujourd'hui donc à 37-38 ans. Et ce qui peut-être le fait un tout petit peu, lui fait changer son paradigme, c'est que en face, à 17 ans, il y a un nouveau qui arrive. Voilà. Il y a Damien Tosseau. Qui est un petit peu son négatif, et c'est la première image du film d'ailleurs qui démarre dessus, sur ce jeune joueur qui est interviewé, ce nouvel espoir, et il peut pas s'empêcher de se projeter, et quelque part lui son objectif ultime ce serait de réussir à aller affronter ce nouveau joueur. Donc je dirais que s'il réussit à gagner ces matchs qu'il ne gagnait plus depuis 10, 15, 20 ans, c'est parce que il y a ce nouveau lui qui naît en face.
Alex, alors là, moi, première question que j'ai envie de vous demander, comment vous êtes préparé physiquement, psychologiquement à ce rôle ? Ça a dû demander une préparation physique, sportive, d'apprendre des gestes, parce que même si effectivement on va pas trahir un secret, mais sur certaines scènes il y a peut-être des doublures, franchement l'essentiel est là.
Oui, enfin c'était le but que l'essentiel soit là, avec le plus petit geste devait être cohérent et paraître véridique. Donc il y avait ce travail là et puis il y avait effectivement un travail sportif important. Enfin j'allais dire c'est la moindre des choses quoi. J'allais pas dire ben on se retrouve demain à 14h20. Donc voilà, il y avait un travail important de sport au quotidien pendant de nombreuses heures par jour, et cet entraînement, à défaut de me rendre bon joueur, me mettait dans une pulsation sportive. Vachement utile pour le film aussi et pour la psychologie du personnage. Et les alternances en concentré de temps que je pouvais avoir d'espoir, de désarroi, de désespoir, de certitude, de je vais y arriver, de j'y arriverai jamais, je crois pouvaient être mis au service du personnage aussi et de la psychologie que j'avais à construire avec ce personnage-là. Donc c'était à la fois utile techniquement pour ce qu'on avait à voir à l'image, et c'était important psychologiquement pour ce que j'avais à faire comme petite cuisine interne pour nourrir ce Thomas Edison.
Comment vous le définiriez, Thomas ?
Oh, c'est difficile de comment je le définirais. Une espèce de rock dans la détermination. C'est un personnage, parce que il nous arrivait en presse de nous dire, alors ce type un peu out des circuits, out des terrains, ce mec perdu dans les limbes des classements, etc. Je trouve qu'on a vite tendance à faire ça. Moi j'avais déjà vécu ça avec Guy quand on a abordé une interview en me disant ce ringard de la chanson française.
Ouais. Quand on voit le succès derrière, César du meilleur acteur, et
non,
j'en passe.
Non mais je parle même pour le personnage lui-même. Oui. Moi je répondais toujours, bon bah écoutez, oui, il a fait 10 tubes, faites-en un. Faites un tournoi, même qui ne soit pas aussi prestigieux que celui de Roland Garros en carrière professionnelle, le tennis, en carrière professionnelle. C'est-à-dire déjà un bon joueur de club, on sait qu'il a une détermination à toute épreuve de samedi en mercredi et de mercredi en samedi. Ces mecs-là, à partir du moment où ils sont dans le circuit professionnel, il y a tout le reste qui est difficile autour, les finances, la foi en quelque chose de plus grand qui s'effrite, mais enfin, c'est des créatures dans la volonté qui sont impressionnantes, impressionnantes.
Il y a des joueurs dont vous êtes fan aujourd'hui, où vous avez pu rencontrer, discuter, échanger avec eux.
Par exemple, c'est très bateau de dire ça, mais on en parlait l'autre fois sur Nadal, le sentiment qu'un mec comme ça, les sentiments qu'il convoque chez nous, spectateurs, quand on n'est pas forcément aussi féru, passionné de tennis que Quentin. C'est des gars qui convoquent autant l'admiration qu'une espèce de truc intérieur. On se dit, ils vont bien perdre un jour, c'est bizarre. C'est très violent. C'est-à-dire qu'on les admire autant qu'il y a un truc derrière nous.
On attend la chute, quelque part.
Derrière la nuque, on attend ça, c'est horrible. Mais plus ils avancent et plus ils gagnent, et plus l'essai se transforme. Et malgré tout, maintenant, on scrute le moment où ça ne sera plus. Donc c'est fou.
Quentin, quand vous avez peut-être contacté justement les instances de Roland-Garros, de la Fédération Française de Tennis, comment ils ont accueilli, eux, le projet ?
Alors, on a eu l'occasion, grâce à Alex et à Canal+, qui est un des partenaires du film, on a eu l'opportunité de rencontrer Bernard Giudicelli, donc le président de la Fédération Française de Tennis, qui forcément, au début, était un peu réticent, parce que aucune fiction n'a jamais été tournée à Roland-Garros. Et aussi, ce ne sont pas des sachants du tout dans le milieu du cinéma, c'est-à-dire que si je leur envoie le scénario et qu'il le lit, il va pas réussir à se projeter, à voir ce que forcément je veux en faire. Donc c'était au début un petit peu compliqué pour eux de voir quel était l'objectif, mais je pense que ça a changé après nos rencontres où ils ont vu qu'il y avait eu un sincère respect et honnêteté par rapport au sujet. Voilà, un vrai amour de ce sport, une vraie connaissance, voilà, une expertise dans le détail et dans sa mythologie, tout en aussi étant très clair de notre côté qu'on n'en ferait pas une publicité, ni pour Roland-Garros, ni pour le tennis. C'était appréhender ce sport dans toute sa complexité, financière, physique, mais...
psychologique, à travers le personnage.
Exactement, tout en étant toujours, voilà, très respectueux du lieu. Et je pense que, voyant ça, ils se sont dit que voilà, il y avait sans doute quelque chose à jouer, une sorte dans l'intérêt peut-être supérieur même de ce sport, et tout simplement de parler d'un art à un autre art, voilà, et qu'il y a une transposition comme ça qui pouvait se faire, et on est très contents parce que ils ont vu le film et ils aiment beaucoup.
Alors on va y revenir, dans quelles conditions justement il a été tourné et tout. Moi j'ai plein de questions qui arrivent. Mais on va écouter d'abord la bande-annonce, puisque 5ème set, ça sort mercredi au cinéma. On écoute.
Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand ?
J'ai envie de gagner un Garros, c'est tout ce que je veux.
Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale. Parce que je supportais plus de te voir perdre.
Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan.
Je trouve pas qu'il te ressent un peu, Tosso.
Je suis plus beau.
On vieillit tous, Thomas.
Je vais jouer les qualifs.
Tu vas te faire tuer, mec.
Moi, j'abandonne pas.
Si t'avais gagné le match plus tôt, t'auras moins mal. T'as l'air fatigué, toi.
Donc d'après mes calculs, je peux encore jouer 7 ans.
Pardon.
Notre spécial 5ème set, on parle sport au cinéma. Aujourd'hui, 5ème set, c'est notre coup de cœur ciné avec Alex Lutz et Quentin Reynaud qui sont nos invités. On revient dans un instant, les garçons, dans 3 minutes, vous restez avec moi ?
Oui ! Avec plaisir.
Eh ben allez, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
De la musique. Du rire. De la bonne humeur, vous écoutez Radio Open FM.
Il veut soigner tous mes maux, mais je lui dis d'aller doucement. Yeah. Il veut effacer mes doutes et mes peines et sa tendrement. Yeah. Maman, tu marches à l'instant. Est-ce que tu sens cette énergie? Je veux ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pipi. Yeah. Baby, don't you go nowhere, freeze. Even though you get what you want, say please. I can put a date on it, say when. Spinning friendships, baby, scream wee wee. I'm all shawty, I be the man. Body like a Benz, grab up your friend. She coming toward me, catching on. Pull over, how crazy you driving? I make promises to call. Mais moi, tu manges à l'instant. Est-ce que tu sens cette énergie? Je veux ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pépite. C'est qui? En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pépite. pépite. C'est cuir.
Radio Open FM 99, votre radio.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour pour notre spécial 5e set dans Chute, on écoute la télé. Aujourd'hui, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine avec Alex Soutz et Quentin Reynaud qui sont nos invités. Alors Quentin, la chose que j'avais envie aussi de savoir, comment s'est tourné le film? Est-ce que ça s'est tourné dans la prolongation du tournoi de Roland-Garros? Est-ce que ça s'est tourné à une saison complètement différente? Il a fallu amener des spectateurs. Comment ça s'est passé?
On n'a tourné pas à la part au moment du tournoi. Bah déjà, Roland-Garros, c'est un tournoi de tennis. Hein, donc, pendant qu'il y a Roland-Garros, ils ont autre chose à faire que s'occuper d'un...
Mais ça aurait pu être tourné à la prolongation.
Non, on a pris nos distances pour des raisons de production et on a tourné en fait au mois de septembre. On a commencé le 7 septembre 2019. Et donc, on a fait revenir. On avait du public, on avait de la figuration. En sachant que, voilà, on a eu pas mal de figuration, mais que la figuration aujourd'hui, grâce aux techniques d'effets spéciaux et de cinéma, peut aussi se multiplier. Donc on a fait une préparation très complexe et complète afin de pouvoir utiliser au mieux les figurants qu'on avait sur place.
Et l'espace, évidemment. Il y a une scène particulière qui a été difficile à mettre en boîte. Je pense vraiment à cette scène de match qui a duré 25 minutes quasiment.
Ah oui, alors du coup c'est plus une scène, c'est-à-dire non. Que là c'est un...
On est sur un plan séquence, limite.
Ouais, là, ouais, non, là c'est... Oui, là c'est... On dirait le truc le plus rigolo à faire presque, mais le plus angoissant aussi, c'est la fin du film, de toute façon, se termine par une expérience qu'on offre aux spectateurs d'un match en direct de Roland-Garros, il y a 10 minutes.
Avec les vrais commentateurs et tout.
Avec Lionel Chamoulot.
C'est très très loin quand même.
Avec Lionel Chamoulot et Arnaud Di Pasquale, et on est allé tellement loin que même en fait, moi j'ai fait commenter le match par Lionel Chamoulot et il ne connaissait pas le score, et il ne connaissait pas le résultat du jeu. Donc en fait, il a commenté en direct le jeu, comme si c'était du direct réel à Roland-Garros. Et oui, ça c'était assez génial à faire parce que c'était comment construire cette scène de direct en ayant tout scénographié en réalité, tout écrit et tout prévu. Donc il y a eu une journée entière dédiée au jeu en lui-même, le jeu de tennis, avec les angles de caméra de la télévision, avec des focales longues, avec des angles bien maîtrisés, bien connus, voilà, des ralentis maîtrisés. Et le lendemain, par contre, c'était reprendre les positions des doublures et mettre Alex dans ses positions, dans ses interstices entre les points réels. Donc en fait, c'était lui dire ah ben là le point se finit à la volée, donc je le positionnais à la volée et moi j'avais un petit ordinateur à côté où j'avais l'image qui avait été tournée la veille et je disais là faut que tu cours vers l'avant et tu passes là sur la ligne et tu rejoins le ramasseur là-bas au fond à droite. Et tout ça dans une urgence de temps assez impressionnante puisque on était aussi en septembre et la lumière est beaucoup plus rasante et donc on récupère beaucoup plus d'ombre alentour sur le stade. Donc on était en permanence dans une quête comme ça d'efficacité et ça c'était pas le plus dur mais c'était peut-être le plus drôle. Voilà.
Alex, je pense que Quentin a fait un beau cadeau quand même, avoir Anna Girardot comme femme et Christine Scott-Thomas comme maman. Je pense qu'on pouvait guère faire mieux quand même. Hein.
Ah oui, Anna, et j'avais à peine tourné avec elle, moi, dans Knock. Mais je trouve que c'est une actrice prodigieuse parce que elle arrive avec une intériorité à donner quelque chose de dingue à l'image. Et puis, je croyais en ce couple, enfin bon, voilà. Et Christine, je l'ai un peu cherchée, quand même. C'est moi qui suis un peu allé la chercher. Donc je savais qu'elle voulait bosser avec moi. Et on avait le scénario et tout ça. Et j'ai demandé l'autorisation à Quentin. Est-ce que ça te dirait cette actrice et,
Là, je suppose qu'il n'a pas refusé, évidemment.
Oui, mais enfin, en même temps, il l'a pas fait aveuglément non plus. C'était une vraie question, la mère. Il y avait quand même l'étrangeté avec Christine. C'est-à-dire que ça mettait aussi, même si on le justifie pas, il y a le fait qu'elle soit anglaise. Et donc, ça nous mettait quelque chose sur le personnage, en tout cas dans son passé. Finalement, on n'en fait rien de ça. Mais bon, ça, il fallait qu'on se questionne bien et si ça marchait. Très vite, on se disait, ouais, ça, ça matcherait bien, ça matcherait bien. Et voilà, et puis je l'ai appelé et je lui ai dit, très honnêtement, c'est pas un rôle principal, c'est un rôle secondaire de soutien extrêmement vertébral et important. Et elle est merveilleuse dedans. Voilà, les deux, j'avais deux partenaires de rêve, mais j'ai pas que elles deux en partenaire superbe, hein, dans le film. Il y a parfois des tout petits rôles qui sont extraordinaires. Fabienne Galula, qui vient plus du théâtre, qui joue mon espèce de sponsor, là, elle est inouïe, quoi. Elle est inouïe. Donc, j'avais beaucoup de chance, ouais, avec mes copains aussi.
Alex, quand on vient du one-man show, qu'on fait de la scène, des fois, il y a des films où on peut s'autoriser peut-être quelques petites impros, quelques petites choses comme ça. Là, dans un film où la technique est là, avec la technique sportive en plus, est-ce que Quentin a laissé quand même, malgré tout, quelques petites improvisations où tout était extrêmement millimétré, que ça soit dans les chorégraphies ou le dialogue?
Convient du one-man show ou pas, finalement, non, enfin... Moi, je viens pas avec mon background de one man show en disant au prétexte que je fais du one man show, je vais improviser mes films, quoi. Ça aurait pas aucun sens. Donc, ça dépend vraiment du capitaine qui est à bord et de comment il voit les choses. Là, je sors d'un film que j'ai fait avec Étienne Comard où il nous laissait improviser sur certains endroits. Sur certains endroits, c'était d'une immense précision à la virgule près. Quand vous tournez avec Blié, c'est à la phrase près. C'est pas vrai que vous commencez pas à improviser des dialogues de Blié, ça a pas de sens, sinon c'est plus des dialogues de Blié. Et Quentin, ben non, il acceptait des endroits où on pouvait pas forcément improviser. Ce qu'il faisait aussi parfois, c'était de nous laisser nous perdre un peu dans la scène pour émotionnellement trouver quelque chose. Et puis après, on revenait à ce qu'il avait écrit, puisque c'est très bien écrit, alors il n'y a pas besoin de... Voilà, après moi je peux... m'amailler sur un mot ou un adverbe ou comment se mettre les choses en bouche. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une collaboration avec le metteur en scène, quoi.
Quentin, c'est un rêve de gosse, en quelque sorte, là, qui est accompli avec ce film sur l'univers du tennis. Puisque j'ai bien compris que vous étiez fan de tennis.
Ouais, c'est presque un double rêve de gosse. Puisqu'il y a quand même le fait de faire du cinéma qui reste, pour moi,
bien sûr,
un rêve de gosse. Enfin, hein, voilà. Et alors, effectivement, de le faire à Roland-Garros, oui, c'est quasiment un double rêve de gosse, mais avec du coup deux fois plus de pression aussi.
Ah oui, ça j'imagine bien.
Voilà, deux fois plus de pression, donc c'est un peu à double tranchant. Ouais, oui.
Merci Quentin, merci Alex d'avoir été avec nous. On va se requitter avec un petit extrait 5ème set, c'est mercredi au cinéma.
Ça va le genou?
Thomas Edison donc affrontera Damien Tosso.
On a quand même quasiment 20 ans d'écart. Mmh. Ça va être un bon premier tour d'échauffement.
Vous continuerez donc à jouer l'année prochaine?
Peut-être.
Tu m'as promis que tu t'occupais de Gaspard.
Tu crois que j'ai pensé que t'avais une chance de passer les qualifs?
Donc tu ne me crois pas capable d'atteindre un premier tour?
Parce que je sais que c'est important.
Mais ça fait 1000 ans qu'on est là.
Putain!
C'est quoi ta stratégie contre Tosso?
Être plus fort mentalement.
Très très dur pour Thomas Edison.
Je sais ce que j'ai à faire, c'est pas fini. Thomas Edison a 37 ans, il sait qu'il a pas fini.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le plaisir de recevoir l'équipe du film Président. Sa réalisatrice Anne Fontaine ainsi que les actrices Pascal Arbillot et Doria Tillet seront nos invités exceptionnels. Nous aurons le plaisir de recevoir également Sacha du groupe Début de Soirée pour la fête de la musique depuis Roland-Garros qui sera diffusée lundi prochain justement sur France 2. On va reparler de la série Mixte et on va parler également lundi prochain du festival Sœurs Jumelles qui aura lieu à Rochefort en Charente-Maritime avec Julie Gaillet, sa créatrice, qui sera notre invitée. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Votre radio des Monts d'Ambazac, c'est Radio Open FM, à retrouver aussi sur radioopenfm.fr.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec La Quotidienne à 13h10 et 16h sur Radio Open FM. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous retrouve également lundi prochain à 17h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Open FM. Ah!
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre opticienne en Bazac Optique, lunettes, lentilles, contrôle de la vue, devis gratuit, conseils personnalisés. Alors n'attendez plus. Votre opticienne en Bazac Optique vous attend au 14 rue Joannet à En Bazac, au cœur de votre ville, et s'occupe de toutes vos démarches.